Conclave d'hier, conclave d'aujourd'hui, l'élection d'un pape. Voici la conférence de Marc Agostino, professeur à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux 3. Conférence enregistrée le 12 avril 2013 au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne, dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne. Conclave d'hier, conclave d'aujourd'hui, l'élection d'un pape. Voici donc la conférence de Marc Agostino.
Je pourrais commencer mon exposé avec les remarques de post-conclave, qui sont des remarques récentes, puisque lorsque le pape était élu et qu'il apparaissait à la loggia de Saint-Pierre, après qu'on ait annoncé son nom, il disait rien, sinon « Benedicat vos » ou « Benedictio Dei Omnipotentis ». Et c'est seulement depuis Jean-Paul II que le pape s'adresse au peuple, en l'occurrence, pense-t-il, pour les uns c'est le peuple universel, pour le pape François, visiblement, il pensait qu'il y avait surtout des Romains. Alors, je ne vais pas commencer comme eux. Je pourrais vous dire comme Jean-Paul II, qui avait donné dans le genre très religieux, « Si laudato Jesu Christo », il avait commencé en disant « Sois loué Jésus-Christ ». Benoît XVI avait commencé en disant « Je suis l'humble ouvrier dans la vigne du Seigneur ». Et alors, je vais commencer comme le pape François, peut-être, « Buonasera tutti », puisque tels ont été les premiers mots qu'il ait... Pardon, excusez-moi, je sors d'un rhume. Qu'il ait utilisé. Alors, c'est vous dire que ce que l'on croit très ancien, comme cette allocution, presque première allocution du pontificat, est en réalité récent. Ce n'est que depuis 1978, donc, que le pape s'adresse à la foule et au monde, à travers un phénomène qui lui aussi est très récent et nous préoccupe énormément, qui est le phénomène des médias, dont je parlerai à la fin d'exposé, qui change absolument toutes les données. Néanmoins, cette remarque introductive vise à vous montrer combien la présence de cette foule réelle sur la place et de cette foule virtuelle, peut-être au-delà des médias, est importante pour le nouveau pontife. C'est une des rares fonctions universelles actuellement, qui a suscité un intérêt chez ceux qui sont croyants, évidemment, et chez ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas pour autant ignorants. Et ils savent bien que c'est une institution de premier ordre, quel que soit leur sentiment à son égard, bien entendu. Alors, le conclave, qu'est-ce que ça veut dire? Vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps. Ça veut dire sous clé. Hein, on met les cardinaux sous clé pour qu'ils puissent se décider à élire un pape. Et c'est là, nous verrons tout à l'heure, que, si j'ai le temps, hein, parce que je vais essayer de brasser un vaste panorama historique de ces conclaves, combien l'opinion publique a pu influencer, même indirectement, les cardinaux. Ils étaient contraints de se mettre d'accord en 2, 3, 4 jours. L'opinion publique ne l'aurait pas admis. Imaginez, dans les périodes antérieures, où il est arrivé que les conclaves aient lieu plus de 6 mois, voire de 8 mois. Imaginez 6 mois de fumée noire 2 fois par jour. J'imagine les télés et les commentaires acerbes qui auraient eu lieu. Alors, sous clé, c'est une institution, on l'a beaucoup dit dans la presse, qui était effectivement unique. C'est la seule autorité importante dans le monde qui est élu de cette manière-là, par un collège précis, qui désigne le pasteur d'une église, qui se trouve être l'église universelle. Et le pape François, vous l'avez constaté, a beaucoup insisté, beaucoup, peut-être qu'il va revenir en arrière maintenant, il va bien falloir de toute façon, sur son rôle d'évêque de Rome. C'est le siège romain. Il est évêque de Rome. Moi, je viens d'être élu évêque de Rome. Et il a attribué à Benoît XVI, je ne sais pas si celui-ci était content, le nom d'évêque émérite. Je ne suis pas sûr que Benoît XVI se soit vu comme évêque émérite. Mais, si vous voulez, c'est cette nouveauté de l'enracinement retrouvée dans l'église de Rome qui est une nouveauté actuelle. Et cet évêque de Rome, en réalité, c'est un jeu sur les mots. C'est un jeu sur les mots, je voulais vous dire ça dès l'introduction, parce que le pape, comme vient de le dire Madame Ponté, qui m'a présenté avec tant d'amitié et dont l'accueil est toujours aussi chaleureux et aussi fin, eh bien, elle vient de vous dire « urbi et orbi ». Alors, bon, mon urbi, c'était peut-être Bordeaux, je ne sais pas. Quoi qu'à Rome, au fond, hein, sans trop se fatiguer, on peut toujours attirer des électeurs romains, bien entendu. Et orbi, c'est-à-dire que cet évêque de Rome, il est pasteur universel. Et ce qui résume la théologie de ce siège romain, c'est le terme employé par les conciles. Et on joue un peu sur les mots. Le pape, pour tous les conciles, y compris Vatican I, qui a voté l'infaillibilité papale, et Vatican II, qui a voté la collégialité, parle du pontife romain. Le titre exact du pape, c'est Pontifex Romanus. Le pontife romain, c'est ça son titre. Et effectivement, si on traduit pontife par évêque, on en arrive à évêque de Rome. Mais si on dit évêque de Rome aux contemporains d'aujourd'hui, ils vont penser, sans faire de jeu de mots, que ce François, lui aussi, veut être un évêque normal. Mais un évêque normal, non, il n'est pas un évêque normal. Il est un évêque qui a la charge pétrinienne qui l'accompagne. Alors, cette brève introduction, pour vous situer l'importance de cette institution, qui n'est pas reconnue évidemment par tous les chrétiens, vous le savez, les protestants ne sont absolument pas des adeptes des papes, et appellent les catholiques les papistes. Les orthodoxes le considèrent comme le premier des évêques, parmi les égaux, vous le savez. Le patriarche de Constantinople s'adresse au pape en lui disant « frère aîné dans le Christ », ce qui est véritablement une formule très belle d'ailleurs, mais qui montre que c'est un évêque parmi d'autres. Tandis que pour l'Église catholique romaine, c'est-à-dire pour tout l'Occident, le pape détient les clés, le pouvoir des clés, et il est l'héritier de l'apôtre Pierre, et c'est depuis la plus haute antiquité, l'évêque de Rome se réclame de cet héritage de l'apôtre Pierre. Et un argument d'apologétique utilisé par les catholiques très souvent. Pourquoi l'évêque de Rome? Bon, parce qu'il y a le tombeau de Pierre à Rome. Et parce que jamais personne n'a réclamé le titre de successeur de Pierre, à part le pape. Seul l'évêque de Rome, depuis la plus haute antiquité, se réclame d'être le successeur de Pierre. Alors ce successeur de Pierre, je dirais qu'il va être élu par le conclave sous clé. Ce sera mon premier point. À la suite d'un long processus historique que je vais tenter de résumer. Alors, la ville de Rome, bien entendu, est un diocèse que Pierre aurait choisi, selon la théologie catholique, et les fouilles, vous le savez, ont trouvé les restes d'un tombeau qui serait à l'aplomb de la croix de la coupole Saint-Pierre, de l'autel papal, et sur lequel reposerait l'église Saint-Pierre, c'est-à-dire une des principales églises de Rome. François est allé l'autre jour visiter ce tombeau avec une vive émotion. Est-ce le tombeau de Pierre? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Et je laisse aux archéologues le soin de le décider. Mais telle est la tradition. Comme disait le prince Massimo à Napoléon, ça fait 2000 ans qu'on le répète dans la famille. Ça fait 2000 ans que les papes disent notre autorité repose sur le tombeau de Pierre. Et l'église de Rome, évidemment au départ c'était l'église de la capitale, puisque Rome en latin se dit urbs, c'est-à-dire la ville, avec un U majuscule. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le diocèse de Rome et la ville de Rome, malgré tout le charme des fontaines, des cafés, des promenades, des églises, n'est quand même pas des sièges majeurs du monde. C'est spirituellement que l'église romaine détient cette légitimité issue de Pierre. Il s'agit bien donc d'élire l'évêque de Rome, en sachant qu'il est autre chose que l'évêque de Rome. Alors très longtemps, le pape, on l'appelait pas le pape, on l'appelait l'apostole, ce qui n'est pas mal, c'est-à-dire l'apôtre. Dans les textes médiévaux, les gens vont à Rome voir l'apostole, c'est-à-dire l'apôtre. C'est peut-être encore mieux que le pape. Et le terme pape s'est peu à peu imposé pour l'évêque de Rome, quoique ce soit un terme qui est employé, vous le savez encore, par exemple, par les Coptes d'Égypte, qui parlent de leur primat en parlant du pape. Le dernier, c'était Chénouda III, il est mort, j'ai oublié le nom de son récent successeur, on dit le pape des Coptes. Mais le terme de pape est donc réservé à l'évêque de Rome. Alors, très longtemps, cet évêque de Rome est très peu connu, il est connu surtout par l'archéologie. Je ne vais pas insister là-dessus, il est élu par le clergé romain, par le peuple romain, et puis on s'est rendu compte très vite que l'empire romain disparaissant, le siège apostolique, comme on dit, le siège de l'apôtre de Rome, devait être surveillé de près dans la nomination de ses titulaires. Alors, dire que le pape est élu par le peuple et le clergé de Rome ou le clergé et le peuple de Rome, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ça pouvait être soumis à toutes les pressions. Alors très vite, on a pris quelques mesures pour essayer de limiter le coup de chance ou de malchance qui pourrait faire que tel ou tel pape soit élu. Et dès le IIIe siècle, on décide que c'est la majorité des votes du clergé, c'est le décret de Symmaque, qui conditionnerait l'élection de l'évêque de Rome. Alors, la question n'était pas très importante, parce que tous ces évêques de l'Antiquité sont en général le plus souvent des martyrs, jusqu'au IVe siècle, et ensuite de véritables saints ou des personnalités de très haut niveau, comme Saint Grégoire le Grand. Mais très très vite, pendant la période du Moyen-Âge, après les invasions barbares, on s'est rendu compte que la papauté était menacée par un danger majeur, que cet évêque de Rome était menacé par un danger majeur, un danger mortel, le pouvoir séculier. Vous savez, on parle beaucoup des affaires de la laïcité et de l'État et de l'Église. Ce sont des affaires extrêmement anciennes, et en particulier en Occident. Savoir quel est le degré de liberté de l'État, mais quand l'État domine, quel est le degré de liberté de l'Église? Comment faire que l'évêque de la ville de Rome, qui est occupé par des barbares successivement, qui est soumise à l'empire carolingien, puis à l'empire allemand, qui est quelquefois aux mains de familles extrêmement puissantes à Rome, qui font et défont les élections papales, comment faire que cet évêque, ce pontife, vers qui beaucoup tournent leur regard, soit vraiment indépendant de tout pouvoir séculier? C'est ça qui explique le conclave. Alors vous me direz, mais c'était peut-être le cas aussi pour les orthodoxes. Mais pour les orthodoxes, il y a une autre philosophie des relations de l'Église et de l'État. L'Église et l'État sont plus en collusion qu'en Occident, où vraiment on a l'impression très vite que l'Église a envie de se séparer de l'État, en attendant qu'à son tour l'État ait envie de se séparer de l'Église. Vous voyez, c'est une espèce de jeu à deux. Alors le conclave va être instauré dans un contexte très difficile, après l'an 1000, pour essayer de faire que l'élection papale soit la plus libre possible. Et trois mesures vont être prises au cours des siècles qui vont tracer l'essentiel du conclave actuel et surtout du conclave d'hier. Je vous décrirai ensuite ce conclave. Alors les trois mesures qui font que l'évêque de Rome peut être indépendant donc, du reste de la société, c'est d'abord la décision de 1059 du pape Nicolas II, qui décide que les cardinaux, que le pape serait élu par seulement les cardinaux évêques même. Alors qui sont les cardinaux évêques? Ce sont les évêques des sièges autour de Rome, et ils sont accompagnés de cardinaux prêtres, qui sont les curés des paroisses romaines, et de cardinaux diacres, qui s'occupent des grandes affaires de charité et d'intendance de l'Église romaine. Tout ça toujours dans le cadre de la ville de Rome. Donc premier acte de liberté, l'évêque de Rome est élu par le clergé romain, et uniquement par le clergé romain. Il est dit cependant dès 1059, et ça c'est très intéressant, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, que si par hasard on ne trouve pas de candidat romain ou italien, on peut prendre le pape partout. Donc ça c'est dit explicitement dans la première décision concernant l'élection papale. Donc c'est une énorme ouverture, ce qui était un retour à l'Antiquité, où on a des papes grecs, des papes africains. C'est vraiment, on sort de Rome. La deuxième mesure, c'est une mesure qui a lieu un siècle après, où le pape Alexandre III décide que le pape sera élu par tous les cardinaux, pas seulement les cardinaux évêques, qui vont former un collège, aux deux tiers. Alors, cette loi des deux tiers, c'est la clé de la liberté papale. Vous savez, vous faites tous partie d'assemblées, on arrive assez facilement à convaincre la moitié des voix plus une. Ça arrive souvent, dans l'approximation, dans les ralliements, dans les... Bon. Mais les deux tiers, c'est vraiment ce qu'on appelle une majorité qualifiée. Les deux tiers des votants. C'est-à-dire que vraiment, il faut convaincre les gens présents de la valeur du candidat. Et ça, c'est la deuxième règle immuable de l'élection papale. Je vous donne un exemple. Le pape Jean-Paul II, qui aimait beaucoup innover, tout en conservant, vous savez, enfin, les historiens le diront, ce pontificat, a fait une constitution sur l'élection papale dans laquelle il dit si au bout d'un certain nombre de scrutins, on n'arrive pas à avoir les deux tiers, eh bien, on peut passer à la majorité absolue. Benoît XVI est élu. Il est élu aux deux tiers, bien sûr. Il est élu au mois d'avril. Une de ses premières mesures au mois de juin, c'est une modification de la Constitution de Jean-Paul II déclarant « Quel que soit le cas de figure, le pape doit être élu avec les deux tiers des voix. » C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, ayant participé à un conclave, que ça pouvait être un petit peu dangereux. Vous voyez, vraiment, on revient à la grande tradition et cette décision qui est l'avant-dernière, puisqu'il en a pris une, vous savez aussi, alors qu'il avait déjà abdiqué, qui s'appelle d'un titre ineffable, « Normas non nullas », dans laquelle il dit qu'il faut effectivement qu'on peut rapprocher les dates du conclave, vous avez lu ça peut-être, dans la presse. Donc si vous voulez, la deuxième mesure, c'est celle-là. Et alors la troisième mesure qui fait que le conclave va exister, c'est la mesure la plus spectaculaire, c'est la mesure qu'a prise le pape Grégoire X en 1271. Le siège apostolique était en discussion depuis plus de deux ans. Les cardinaux s'étaient élus et s'étaient réunis, excusez-moi, je veux aller vite, s'étaient réunis à Viterbe, où le pape était mort. Car il est dit dans toutes les constitutions, le conclave se réunit là où le pape est mort. On s'est réunis donc à Viterbe, dans le grand palais de la place de Viterbe, que l'on peut encore visiter. Et les cardinaux, au bout de deux ans, n'avaient pas réussi à avoir les deux tiers. Alors, il y a à cela des raisons. Il y avait très peu de cardinaux. À l'époque, il y avait entre 7 et 12 cardinaux, ce qui est très peu. Et ensuite, la majeure partie était italien. Étant pour une bonne partie d'origine italienne, je peux me permettre de dire que les cardinaux italiens, ça se chamaille en permanence. Quand j'entendais parler du parti italien, au dernier conclave, je riais tout seul. Parce que vraiment, ça s'est vu au Moyen-Âge, ça traîne pendant deux ans, pour des raisons de région, pour des raisons de philosophie, pour des raisons... Bref, au bout de deux ans, il n'y avait pas de pape. Alors, le capitaine de la ville, des milices de la ville, le commandant de gendarmerie, si vous voulez, et le podestat, c'est-à-dire le maire, ont enfermé les cardinaux dans le palais de Viterbe, sous clé, cum clave. Puis, au bout d'un mois, leur ont enlevé le toit du palais où ils étaient, et un mois après, les a mis au pain et à l'eau. Eh bien, les cardinaux, même italiens, ont élu le pape Grégoire X, dont la première mesure a été, dans une bulle restée célèbre, parce qu'il a pris comme titre, « Ubi periculum », c'est-à-dire là où il y a danger. Vous voyez comment ça commence, mais là où il y a danger, on prend des mesures du Grégoire X. Il dit « Je fais de la règle de Viterbe la règle de l'Église. » Si les cardinaux, on enferme les cardinaux, on les coupe du monde, on leur enlève le toit, et c'est ce que je voulais vous lire, enfin, on leur enlève ensuite la viande, ensuite le vin, on se retrouve au pain et à l'eau. Alors le problème de Grégoire X, c'était un saint pape, mais il n'a pas pu empêcher, malgré cette mesure, le fait que le conclave, à la fin, donc ça se passe donc à la fin du XIIIe siècle, il y avait très peu de cardinaux, parce que les cardinaux avaient obtenu des papes, que chaque fois qu'ils nommaient un cardinal, il fallait que le pape, que les cardinaux donnent leur accord. Alors ils disaient non, 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 non. Bref, par exemple, le pape Nicolas III, en 1277, a été élu par un conclave de 7 cardinaux. Comme lui ne peut pas voter pour lui, il fallait qu'il ait les deux tiers de 6 voix. Il a mis 2 mois. Vous voyez, donc, il y avait une atmosphère un peu malsaine. Pas au niveau, ne voyez pas ça d'un point de vue de la sainteté et du christianisme, hein. Je fais de l'histoire des institutions, car c'est quand même l'époque, on est à peine un peu après Saint-Dominique, après Saint-François d'Assise, il y a une grande période de l'Église, mais l'institution c'est ça. Hein. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'en 1293, il n'arrive même pas à avoir les deux tiers de 11 voix. Et c'est là qu'il y a cet événement majeur, sur lequel je ne peux pas m'attarder, qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, c'est qu'ils élisent un ermite, Pierre de Mouronne, qui est dans les Abruzes, qui prend le nom de Célestin V. Et Célestin V, au bout de 6 mois, abdique. Il abdique en disant « Je ne suis pas capable d'être le successeur de Pierre. » C'est la première, pratiquement l'unique vraie abdication, renonciation de l'histoire de l'Église. Alors a-t-il eu tort ou a-t-il eu raison, hein ? Vous avez peut-être un avis sur la décision de Benoît XVI, que vous soyez croyant ou non. en tout cas le grand poète Dante, mais Célestin V en enfer, et il l'accuse d'avoir pratiqué ce qu'il appelle le grand refus. Il dit, quand on accepte une fonction, en gros, on assume ses responsabilités. Alors, à chacun sa vérité. Hein. L'Église a canonisé Célestin V. Hein. On peut prier Saint Célestin V. Et Célestin V, son abdication a amené donc, de très grosses difficultés, qui aboutissent à une période extraordinaire pour l'Église, et qui touche la France de très près, puisque les cardinaux ont recommencé en 1305 à ne pas trouver d'accord, et ils ont élu quelqu'un de l'extérieur, qui cette fois-ci était un Gascon, vous le savez probablement, de Villandreau, Bertrand de Gaulle, qui devient le pape Clément V. Et l'Église, le siège de l'Église, sera Avignon pendant plus d'un siècle. 70 ans plus un schisme. Les papes d'Avignon étaient des organisateurs nés. Alors le conclave marche très bien. J'ai regardé sur Internet le plan du palais papal d'Avignon. La ville d'Avignon et les monuments historiques ont fait un magnifique effort pour sauver ce palais qui avait été occupé, vous savez, par une caserne de cavalerie au début du siècle, enfin du XXe siècle. Et il y a une merveilleuse salle du conclave, où on voit, où ils ont même réinstallé des stalles qui n'existaient pas à l'époque. C'était une grande salle comme celle-là, bien plus grande, à poutres. Et les cardinaux se sont réunis pendant près d'un siècle dans cette salle, qui était la salle du conclave. Et si vous allez en Avignon, on vous montrera la fenêtre d'où le pape prononçait sa bénédiction sans commentaire, comme je le disais tout à l'heure, à la foule représentant théoriquement le peuple romain. Alors, la mise en place du conclave, la voilà. C'est donc cette longue période du Moyen-Âge. Le conclave fonctionne. Alors, on aime tellement les conclaves que je n'ai pas l'intention de le développer, mais il faut le dire en deux mots. Il y a un grand schisme en Occident où on s'est retrouvé avec deux et trois papes au début du XVe siècle, parce que les gens étaient tellement attachés à la lettre du conclave que dès que quelque chose pouvait déroger à cette règle, on crée un antipape. C'est ainsi, bon, pour le dire en deux mots, que le pape français Grégoire XI est mort à Rome en 1378. Les cardinaux ont élu un Italien qui a pris le nom d'Urbain VI, mais la foule romaine criait « Nous le voulons romain ou au moins italien ». Voilà, c'est crié dehors « Vogliamo romano o almanco italiano ». Et alors, certains cardinaux français ont pensé que le pape Urbain VI avait été élu sous la contrainte et ont élu un pape français, enfin, suisse exactement. Et il y a eu deux papes, puis trois papes. Alors c'est presque un excès d'observation des règles du conclave. Vous voyez, vraiment, le conclave est devenu juridiquement extrêmement important. Et bien entendu, on peut se poser des questions sur les conclaves actuels. Quel est le rôle de l'opinion publique sur l'élection du pape ? Les cardinaux sont coupés de tout le monde, mais enfin, il y avait quand même un matraquage médiatique qui était assez intéressant et qui donne un résultat tout à fait bien, me semble-t-il. Mais enfin, je dirais, on peut se poser des questions sur l'isolement. Hein. Qu'est-ce que l'isolement dans les sociétés contemporaines ? C'est pour ça que j'ai intitulé ça, avec Madame Ponté, « Conclave d'hier, conclave d'aujourd'hui hein. ». C'est un peu les mêmes problématiques, mais de manière différente. Alors, à partir de là, on va rentrer dans la grande période des conclaves. J'ai à peu près une heure, c'est cela ? Dans la grande période des conclaves, celle où les conclaves ont fonctionné pendant plusieurs siècles, de manière, je dirais, ce sera mon deuxième point, que j'ai intitulé « Le temps du conclave organisé ». Après avoir vu rapidement, et je vous prie de m'en excuser, cette espèce de montée d'une Église qui, sur des siècles, tire la leçon de toutes les difficultés. Ça, c'est le propre de l'Église catholique romaine. Elle n'oublie aucun fait du passé qui ait pu nuire au bon fonctionnement de l'élection de l'évêque de Rome. Toute l'Église catholique repose en effet sur l'élection de l'évêque de Rome, si on regarde les choses en tant qu'institution. Et bien entendu, c'est capital. Alors, pendant des siècles, du 15e jusqu'à 1878, le conclave, sur les trois règles que j'ai dites, seulement les cardinaux, les deux tiers et la clôture absolue physique, va fonctionner. Et jusqu'en 1878, c'est réglé, excusez-moi de le dire, c'est un peu trivial, comme du papier à musique. C'est réglé comme du papier à musique. Les conclaves fonctionnent très bien. Alors, il y a eu des papes plus ou moins bien. Notre ami tout à l'heure me disait, ah, et le pape Borgia ? Il y a eu le pape Borgia. Je répondrai à vos questions si vous voulez. Et le pape Borgia, il a été élu selon les règles du conclave. En les poussant un peu quand même, il faut le dire. Mais enfin, personne n'a jamais dit Borgia est illégitime, vous voyez. C'est réglé comme du papier à musique. Il y a trois modes d'élection qui sont définis par le pape Grégoire XV en 1622, mais elles étaient en l'air. On peut élire le pape de trois manières. On peut l'élire par acclamation, par compromis ou par élection. Alors par acclamation, c'est dans tous les traités sur les conclaves, il faudrait que tous les cardinaux se lèvent quand François, par exemple, rentre dans le conclave et qu'ils disent tous « c'est lui, c'est lui ». J'ai eu beau chercher, j'en ai trouvé aucun. Il paraît que c'était une règle. Il faudrait qu'on tous sorte « c'est lui, c'est lui ». Alors à ce moment-là, il est pape. Deuxièmement, ça dure trop longtemps, alors on laisse à une délégation de trois ou cinq cardinaux le soin d'élire le pape souverainement. Alors on a prétendu que le pape d'Avignon, Jean XXII, était dans la délégation des trois cardinaux votant pour l'élection d'un pape parce que l'élection durait trop, et qu'il aurait dit, après que l'un ait dit « moi je suis pour un tel », le deuxième « moi je suis pour vous », et le cardinal, futur Jean XXII, aurait dit « moi je vote pour moi et je me fais pape ». C'est une histoire italienne, anti-avignonnaise, bien entendu. C'est un chroniqueur florentin qui a... C'est faux. Hein. Jean XXII a été élu aux deux tiers, comme tout le monde. Et je dirais que ça a encombré les manuels pendant des siècles. Mais maintenant, il y a eu des recherches, on s'est rendu compte que c'était faux. Et la seule élection qui est valable, celle qui est toujours utilisée, c'est les deux tiers. Alors c'est très bien réglé. Il y a un scrutin, deux scrutins par demi-journée, un scrutin normal, ce qu'on a appelé autrefois un scrutin d'accession. C'est-à-dire que, par exemple, pour François, qui a été élu au cinquième tour, l'après-midi du, je crois que c'était un mercredi, l'après-midi du mercredi, il a été élu au cinquième tour. Alors, s'il avait eu scrutin d'accession, il aurait eu un certain nombre de voix à son compte, mais pas les deux tiers. Et au scrutin d'accession, ceux qui n'ont pas voté pour lui pouvaient dire « mais je me rallie au cardinal Bergoglio ». Hein, je prends cet exemple pour qu'il soit parlant. Mais alors à ce moment-là, il fallait défaire tous les bulletins pour savoir si ceux qui avaient accédé n'avaient pas voté deux fois. Alors ça s'est fait, c'était un tripatouillage qui s'est fait pendant des siècles, mais qui n'a jamais donné lieu à des malhonnêtetés. Ça a toujours, ils ont passé les heures qu'il fallait. Alors depuis Pie XII, on a supprimé le suffrage d'accession. C'est-à-dire il y a deux scrutins. Par exemple, pour le pape François, il y a eu un scrutin à 15h et un scrutin à 17h. À égalité, quoi. Vous voyez, c'est pour vous montrer, hein, je traite les conclaves en détail. Vous pourrez aller voter après cet exposé. Donc ça, c'est trois modes d'élection. Ensuite, les personnes. Alors, les électeurs. Alors, qui sont les électeurs? Alors, les électeurs, et c'est toujours valable aujourd'hui, ce sont les cardinaux de la Sainte Église romaine. Vous entendez d'ailleurs toujours ce terme employé quand le pape est proclamé. C'est un tel... cardinal de la Sainte Église romaine. Et je suis toujours heureux, aimant beaucoup la papauté, de voir sur le frontispice de l'Académie française, Julius, Jules, S.R.E., cardinalis Mazarin. Ça veut dire cardinal de la Sainte Église romaine. Alors cette Sainte Église romaine, elle est fictive. Les cardinaux sont soit des évêques suburbicaires, c'est-à-dire des petites villes autour de Rome, soit des curés de paroisse romains, soit des sièges de charité qui sont devenus entre-temps des églises. Ils sont fictivement membres de l'église romaine. C'est l'église romaine qui élit le pape de l'église romaine. Par exemple, quand le cardinal Ricard, pour parler de notre compatriote archevêque de Bordeaux, quand il vote, c'est pas Ricard, archevêque de Bordeaux, c'est Ricard, cardinal du titre de... Voilà, qui vote en tant que membre de l'église. Alors c'est fictif, mais ça permet de dire que c'est vraiment l'évêque de Rome. Alors vous allez me dire, le peuple romain, ben, à part lui dire bonsoir depuis le balcon, je crois que son rôle se limite là. Hein. Bon, son rôle se limite là. Alors, ces cardinaux, pendant cette période, ils sont à peu près 70. En général, ils sont 70. Mais les décès font que, parfois, cela descend. Jean XXIII, vous en souvenez quand même peut-être, n'a été élu que par 48 cardinaux d'un âge élevé. Et ces cardinaux représentent quand même l'Église romaine. Aujourd'hui, j'y reviendrai dans deux minutes, il y a un changement de données. Troisième élément, toujours jusqu'à une période récente, le lieu. Alors le lieu, nous avons vu que au Moyen-Âge, c'était n'importe où. Là où le pape mourait, on élisait son successeur. Viterbe, Spolète, Lyon. Lyon, si vous connaissez Lyon, moi je suis toujours ému. Place des Cordeliers, là, à Lyon, place des Jacobins, pardon, qui est une magnifique place lyonnaise. Et bien au beau milieu, il y avait le couvent des Dominicains, où a été élu le pape Jean XXII. Alors je crois que la ville de Lyon a quand même fait mettre une petite plaque. Mais il n'y a vraiment plus rien, sinon un grand espace municipal. Autrement, depuis Avignon, on avait vu que c'était à Avignon, la salle du conclave, et depuis le XVe siècle, c'est la chapelle Sixtine. C'est-à-dire que le Vatican a été aménagé au moment de la Renaissance, ce merveilleux appartement du Vatican. Le pape Sixte IV a fait construire cette jolie chapelle Sixtine, que Michel-Ange a décorée postérieurement. Et évidemment, cette chapelle Sixtine devient le lieu privilégié de l'élection. Et nous verrons dans quelques minutes que le pape Jean-Paul II a maintenu définitivement cette chapelle Sixtine. Alors, devant ce magnifique Christ, n'est-ce pas, ces peintures dont je ne vais pas faire l'apologie, il paraît que ça fait beaucoup réfléchir les cardinaux, ceux qui sont sensibles à la peinture. Bon, parce qu'il y en a, vous savez, je crois qu'ils sont sensibles surtout au calcul mathématique des deux tiers. Une seule fois, on a modifié la règle. De 1830 à 1846, le pape a été élu au palais présidentiel italien actuel, qui est le Quirinal. Plusieurs papes, dont Pie IX, ont été élus au Quirinal. Autrement, c'est la Sixtine. Durant toute cette période, un seul pape, du 15e au 20e, un seul pape est élu en dehors de Rome, c'est Pie VII, qui est à la suite de la Révolution, en 1800, qui est à la suite de la Révolution, de l'occupation de Rome par les Français, de la proclamation de la République, c'était réfugié. Enfin, le Sacré Collège, en partie réfugié à Venise, et le pape Pie VII a été élu dans le magnifique couvent Saint-Georges Majeur, que l'on voit très bien à Venise, de l'autre côté de la place Saint-Marc, après un conclave de 6 mois. Alors là, c'est stupéfiant. Le conclave a duré 6 mois, et il a été élu à l'unanimité. Alors, allez comprendre, moins sa voix, bien sûr, puisqu'il ne faut pas voter pour soi. Allez comprendre la logique de ce genre d'assemblée. Vous voyez, c'est une assemblée assez extraordinaire. Hein. Alors, ce conclave donc est évidemment clos. Bien entendu, on les nourrit, quelle que soit la durée du conclave. On n'applique plus la règle du pain et de l'eau. On leur laisse un toit. Mais les élections sont épouvantables. Il y a des morts à chaque conclave, parce que ce sont des cellules de 4,50 m de long sur 3,75 m de large qui sont créées avec des espèces de contreplaqués, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, qui fait une chaleur étouffante, toutes les fenêtres sont bouchées, et en été, c'est l'horreur. Alors ça, on le tient d'un ancien évêque de Bayonne, Monseigneur Gouillon, qui avait été membre du conclave, qui a élu Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, puisqu'il était cardinal, et qui dit: j'ai cru que j'allais mourir au conclave de Jean-Paul Ier. Il faisait 42 degrés dans ma cellule. Et pas moyen d'ouvrir les fenêtres. Enfin, il restait ça, si vous voulez, pour accélérer le mouvement. Mais au XXe siècle, il n'y a pas de problème. Les cardinaux sont conscients qu'il faut aller vite et qu'on ne peut pas s'amuser à faire durer des conclaves pendant 6 mois. Alors, le conclave est évidemment toujours rythmé par un rituel, qui est toujours le rituel actuel, à savoir une messe dite pro eligendo pontifice, la messe pour l'élection du pape, ou un monsignore, c'est-à-dire un prélat, vient en latin dire aux cardinaux quel est à son avis le profil du futur pape. Alors c'est généralement intéressant, mais ça correspond en général pas au pape qui sort du conclave, mais ça fait rien, il aura prononcé son discours. Ensuite, vous avez peut-être vu cela si ça vous intéresse, il y a cette magnifique formule qui s'appelle extra omnes, c'est-à-dire que tout le monde sorte, à part les cardinaux, et on ferme à clé le conclave, après la messe du Saint-Esprit, bien sûr, qui est célébrée. Et ces conclaves, évidemment, ensuite marinent ensemble. Alors au XVIIIe siècle, par exemple,
On a des récits extraordinaires, en particulier de voyageurs français, parce qu'il y avait des gens légers, même dans le Sacré Collège, au 18e. En particulier, je vous conseille la lecture des lettres d'Italie du président Desbrosses. C'est un petit chef-d'œuvre littéraire, et il y a pas mal de choses sur l'Église. C'est vraiment tout à fait agréable. Alors, au XXe siècle, alors, je pourrais évidemment développer le XXe siècle, je vais résumer. J'avais fait un article pour un colloque sur les religions et l'information que j'avais intitulé « Pour le XXe siècle, secret, rumeur, vérité ». En effet, le XXe siècle, c'est les conclaves. Là, je vous ai parlé des conclaves d'avant-hier un peu. Je vous ai parlé des préludes des conclaves d'avant-hier. Le XXe siècle sont les conclaves d'hier. Ce sont ceux qui élisent les papes que nous connaissons, en particulier les derniers, et qui se passent de manière très rigoureuse dans le cadre d'un Vatican devenu État indépendant et protégé d'ailleurs de l'extérieur. Alors, les règles ne changent pas beaucoup, c'est toujours les cardinaux qui votent, ils sont 70, nous verrons, jusqu'en 1975, et c'est toujours le même rituel que je viens de vous décrire, avec des nuances tout de même importantes. Au XXe siècle, le conclave se désitalianise. Alors, beaucoup de gens ont de peine à le croire, puisque les papes ont été italiens jusqu'à 1978. Et là, il aurait très bien pu être italien, le pape. Hein. Il y avait des cardinaux qui avaient eu, paraît-il, des paquets de voix importants. Mais malgré ça, les papes du XXe siècle nomment des cardinaux, de plus en plus de cardinaux non italiens. Surtout après 1946. Cardinaux français, cardinaux espagnols, cardinaux latino-américains, et puis ensuite cardinaux africains et cardinaux du monde entier. Nous allons voir pourquoi ils peuvent faire cela. Le deuxième élément de ces cardinaux nous amène à une remarque un petit peu amère. C'est la remarque suivante pour le XXe siècle que j'ai faite, que je vous livre en tant que Français. Il y avait en 1903 six cardinaux qui votaient au conclave qui a élu Pie X, qui ne comptait que 62 cardinaux. Et au conclave de François, sur 115 cardinaux, il n'y a que 4 Français. Alors ça, c'est un fait un petit peu, je dirais, surprenant. Et heureusement, il y a 3 cardinaux résidentiels, plus le cardinal Thorens, qui est cardinal de Curie. Heureusement qu'il est français, je dirais. Ça fait 4 cardinaux. C'est pas beaucoup, hein. Alors que les Allemands en ont 6, les États-Unis, je crois, 18. Pour l'Italie, il y a toujours un gros paquet, mais finalement inférieur à la limite à celui de 1903, puisqu'ils avaient la majorité absolue. Donc il y a une ouverture à l'extérieur. Troisième élément important, la couverture par la presse au XXe siècle. Alors je n'ai pas le temps malheureusement de développer les réactions de la presse, mais la presse a toujours 3 réactions, je dirais, importantes, spontanées. Quand le pape est malade, c'est le temps, je dirais, des rumeurs. Le pape est malade, alors en général, ça a été le cas pour Pie X, ça a été le cas pour Pie XI, ça a été le cas pour Pie XII. Le Saint-Siège publie des communiqués en disant « le pape va mieux », suivi souvent d'un communiqué 2 jours après, « le pape est mort ». Donc il y a cet aspect couverture médiatique qui est presque systématique au XXe siècle, qui est assez intéressant. Donc un peu la rumeur sur la maladie du pontife. Ensuite, il y a tout un rituel de l'enterrement du pape. Nous n'avons pas connu cette fois-ci, heureusement pour Benoît XVI. Et pendant cet enterrement du pape, toutes les rumeurs courent. Des rumeurs importantes, comme vous les avez vues dans notre presse, là, pour le dernier conclave. Des noms sont lancés, un peu à la va-vite. Généralement, on ne trouve jamais celui qui sort, sauf 2 fois. Alors, il y a des conclaves où on sait parfaitement qui va sortir, et c'est lui qui sort. Par exemple, pour Pie XII et pour Paul VI. C'était les favoris, ils sont sortis du conclave. Puis d'autres fois, ce sont des inconnus qui deviennent papes, dont on n'avait jamais entendu parler. Ça, c'est une caractéristique du XXe siècle. Alors, ces rumeurs, vous savez, sont l'objet de paris. C'est très amusant, qui était italien jusqu'à environ 50-60 ans. Ça s'appelait le papa calcio, c'est-à-dire que les gens pariaient sur tel ou tel pape. Alors j'ai vu,
parce que j'ai suivi ça de très près pour l'élection de François, que ça s'était répandu en Angleterre et aux États-Unis. Et de manière, l'Italie battue, écrasée, les bookmakers, Paris des sommes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont gagné. Moi, j'avais fait ma thèse d'État sur Pionze et il y a un journal napolitain qui avait lancé un pari sur Pionze, sur disant ce sera le cardinal de Milan, Ratti, personne ne l'attendait. Et bien, il y a quelqu'un qui avait gagné, je crois, 400 fois la mise. Alors, le journal se félicitait. C'est amusant. En fait, on ne sait rien. On ne sait rien. Hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Les journalistes attrapent des rumeurs. Les mieux informés savent en faire le tri, et très bien. Mais en général, on n'a aucune certitude. Et ensuite, il y a des rumeurs sur le déroulement du conclave. Maintenant, les gens vous racontent comment François a été élu. Vous prenez certains journaux, vous aurez le récit du conclave de François. Alors, de deux choses l'une, ou bien il y a des cardinaux bavards, et dans ce cas-là, ils sont excommuniés, ce qui est extrêmement ennuyeux pour eux. Bon, enfin, François peut les relever, mais bon. Ou bien on raconte n'importe quoi. Alors, je ne sais pas sur François, mais par exemple, je vous donne un exemple de tuyaux percés. De tuyaux percés du XXe siècle, on avait dit pendant des dizaines d'années que Pie XII avait été élu à l'unanimité, moins Savoie, au troisième tour. Tout le monde disait ce pape unanime. Un jour, on a trouvé les notes d'un cardinal qui était dans son héritage. Alors les historiens ne sont pas soumis au secret. Non, il a été élu au troisième tour avec 48 voix sur 63. Alors là, on a vu qu'au XXe siècle, on raconte des choses justes, mais aussi des choses fausses. Donc lisons ce que nous lisons. Bon, je le fais avec passion, mais en se disant, quelle est la vérité? Il faut y avoir été. Là, elle est assez simple, je pense, pour cette fois-ci, hein, parce qu'il y a eu un mouvement assez important, visiblement. Mais vous voyez, il y a toute cette catégorie. Alors, au XXe siècle, évidemment, le conclave fonctionne très bien, mais on va être contraint. Je termine en quelques minutes, hein, je peux continuer un petit peu, Madame la Présidente, oui. Alors, je dirais qu'il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous. Conclave, donc, formation du conclave. Les conclaves, donc, de l'époque moderne, pour les appeler en des termes historiques et précontemporaines, ou modernes prolongées, et les conclaves du XXe siècle, où la presse joue un rôle important, pas sur les cardinaux, mais sur les échos qui sont apportés au conclave. Et puis, il y a les conclaves d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'appelle les conclaves d'aujourd'hui, dont j'ai déjà beaucoup parlé? On a changé d'époque à tout point de vue, et en particulier pour les conclaves. Mais il faut dire avec clarté que les règles essentielles sont maintenues. L'évêque de Rome, je préfère dire le pontife romain, je vais vous expliquer pourquoi. Le pontife romain, il est toujours élu par les seuls cardinaux, et non pas par des délégations des évêques du monde entier, il est toujours élu aux deux tiers, et le conclave est toujours une assemblée fermée. Mais les nouveautés, c'est qu'il a fallu tenir compte de faits nouveaux essentiels. Premier fait, l'allongement de la vie. L'allongement de la vie, qui est une très bonne chose pour tout le monde, mais qui a amené le pape Paul VI, en 1970, à interdire d'élection papale les cardinaux de plus de 80 ans. Alors, pourquoi 80 ans? Il fallait bien un âge. Est-ce une bonne mesure? Je n'en sais rien. Le fait est que Jean-Paul II, qui n'était pas très favorable, aurait pu revenir pendant son long pontificat 20 fois sur cette histoire. Donc j'abroge. Non, il a maintenu cette règle. Et c'est une règle qui pèse lourd. Très lourd dans la composition du Sacré Collège. Parce que le pape peut désormais conformer à peu près son collège électoral. Moi, je travaille pas mal sur ces questions, hein, vous l'avez compris. J'avais établi, avant même qu'il n'abdique, je ne savais pas qu'il allait abdiquer, mais je savais que s'il mourait ou s'il abdiquait, Benoît XVI, qui voterait? On le sait à l'avance, on sait qu'il va avoir 80 ans, il ne vote plus. Et en démissionnant le 28 février, Benoît XVI s'est arrangé pour que son remarquable ami allemand, le cardinal Kasper, qui est né le 5 mars, puisse voter. Voilà, hein. Il a eu raison, parce que c'est un cardinal d'une exceptionnelle importance. Mais moi, ça, j'ai tout de suite vu. Alors, c'est quand même un fait nouveau, hein, par rapport au conclavia. Pourquoi? Parce que le pape n'est pas la pythonisse. Il ne pouvait pas savoir quel cardinal allait mourir. Et non, et très souvent, les cardinaux qui se réunissaient étaient autant nommés par ses prédécesseurs que par lui-même. Là, vous avez vu, c'est beaucoup de Jean-Paul II et beaucoup de Benoît XVI. Je ne dis pas que ce soit mal ou que ce soit bien, je dis que c'est une nouveauté. La règle des 80 ans. Alors pourquoi l'allongement de la vie? Même parce que, effectivement, les cardinaux de plus de 80 ans sont actuellement, j'ai oublié le chiffre, mais ils sont aussi nombreux que ceux qui votent. Alors, et on ne peut pas, disait Paul VI, imaginer un conclave au-delà de 120 personnes. Alors il avait fait faire une étude d'assemblée. Si vous avez une assemblée jusqu'à 120 personnes, la personne s'exprime vraiment et c'est son choix, comme dit le cardinal, devant Dieu, hein. L'âme, la conscience nue et l'âme pure devant Dieu, je jure de voter pour le plus digne. Au-delà de 120, il dit que c'est des assemblées qu'ils ont ouvertes au jeu des partis. C'est pourquoi il a tenu à ce qu'il y ait 120 électeurs maximum. Là, c'était 115. Et les papes doivent faire leur calcul là-dessus. Alors, deuxième nouveauté d'aujourd'hui, l'internationalisation extraordinaire, évidemment, du Sacré Collège. Ai-je besoin de vous le dire? Alors, le premier cri des journalistes à l'abdication de Benoît XVI, ça a été le pape sera africain. Vous vous souvenez? Pourquoi? Hein, je veux dire que les cardinaux ont tout de suite dit non, on ne vote pas pour une nationalité, on vote pour une personne. Ça, ils ont eu du mal, mais ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit et redit. Néanmoins, l'internationalisation est importante, l'élection d'un Argentin le démontre. Il était passé pas loin en 2005 quand même, hein, de l'élection, hein, c'était quand même quelqu'un de connu. Et je dirais que c'est un fait majeur. Et ce qui m'a absolument stupéfait, moi, à titre personnel, hein, c'est cette insistance sur l'évêque de Rome. Plus on vient de loin, plus on est évêque de Rome. Quoi. On avait un peu cette impression tout à fait intéressante, mais dont je ne vois pas tellement la philosophie à terme. Hein, sauf s'il a une vision de l'Église autre que celle qui est la vision actuelle. Et puis, troisième élément, donc, l'augmentation du nombre des cardinaux. Ça, je l'ai dit. Paul VI a décidé que les cardinaux pouvaient être jusqu'à 120 dans le conclave. Et il y a des fournées de cardinaux assez fréquentes. Alors, c'est une fonction rare, hein, cardinal. Hein, je vous dis, il n'y en a que 4 en France qui votent. Et c'est une fonction rare, souvent liée alors à des sièges. Hein, il y a des sièges importants dans le monde. Et il y a des sièges italiens qui amènent la pourpre cardinalis. En France, comme siège cardinaliste, nous n'avons que Paris et Lyon. Alors, il y a Bordeaux et Toulouse, peut-être, qui peuvent... C'est très difficile. Et ce sont des fonctions qui sont très marquées aussi par un mot qui fait peur à beaucoup de personnes, qui est la curie. La fameuse curie. Alors, c'est la curie, c'est la faute à la curie, c'est pas la faute à la curie. La curie est celle que le pape veut bien. Hein, c'est le gouvernement du pape. Et si vraiment il veut mettre fin à certaines pratiques, ça lui est très facile. Hein, c'est très facile, s'il en a le courage. Et la curie, effectivement, entraîne un certain nombre de cardinaux escalités. On ne peut pas être président d'une congrégation à Rome, de certaines congrégations, si on n'a pas la pourpre cardinalis. Alors, c'est cette espèce de singularité importante qui fait que les conclaves d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui sont tout à fait différents. L'élection de Jean-Paul II a été un choc pour l'opinion. Il y avait déjà eu la mort inopinée de Jean-Paul Ier, qui était un pape, auquel on compare beaucoup l'actuel pape, pour la simplicité. Mais je crois que le caractère n'est pas le même, et peut-être l'état de santé. Et ça avait créé un tel drame que l'apparition de ce pape polonais, un soir d'octobre 1978, avait été vraiment une surprise générale. Et les historiens découvrent après qu'il avait déjà eu des voix au mois d'août, et que certains avaient déjà pensé à lui. C'est vous dire si l'opinion publique était au courant. Mais je dirais que ça a changé une manière d'être de la papauté, qui s'est déromanisé dans un premier temps, désitalianisé dans un deuxième temps. Benoît XVI lui-même est allemand, et il a posé tout de même cet acte essentiel de la renonciation. Alors là, étant historien, et je ne peux même pas conclure là-dessus,
en disant que c'est vraiment un fait majeur, que tout le monde a bien ressenti comme tel, puisqu'il n'y avait pas eu de renonciation depuis, on dira, Célestin V. Il y en a eu après, mais dans le cadre des schismes, pour remettre les choses en ordre. Et cette renonciation nous amène alors à un conclave sur lequel on a senti, vous l'avez remarqué, dont on a ressenti la nouveauté. Les cardinaux ne sont plus logés dans des petites cellules. Ils sont logés dans un palais qui se trouve dans les jardins du Vatican, qui s'appelle le palais Sainte-Marthe. Et ils sont soumis à l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on ferme toutes les fenêtres, toutes les portes, et ils ont, je pense, les menus que l'on sert habituellement dans ce palais, qui sont des menus sains, mais bon, c'est-à-dire on n'est pas au pain et à l'eau, mais on n'est pas non plus aux agapes. Pour aller de ce palais Sainte-Marthe à Sixtine, il y a un minibus, pour que personne ne parle. Et on a donné l'autorisation à certains d'aller à pied, mais à condition de parler à personne. Vous voyez, il y a une évolution. Le troisième élément, alors, qui est extrêmement important, c'est on savait que ce conclave serait rapide, et beaucoup de choses se sont dites dans les congrégations précédant le conclave, alors que jusque-là, c'était des simples échanges de vues. Et on a vu le poids des opinions publiques internationales. Alors, je ne veux pas trop poursuivre sur ce conclave du pape François, puisque c'est l'actualité, hein, je dirais. Je terminerai simplement cet exposé, hein, qui a couvert des siècles d'histoire, hein, au passage, en disant qu'on a le mystère de cette élection du pontife romain, de l'évêque de Rome, qui en effet enraciné dans cette église de Rome, dans cette église romaine, qui est une église bien gentille, hein, très pieuse, enfin pieuse, c'est un évêché, un diocèse comme les autres, mais dont les cardinaux représentent véritablement l'identité. C'est très amusant, je disais une fois dans un travail, de voir les titres portés par les cardinaux. Effectivement, si le cardinal Ricard porte le titre de Sant'Agostino, ce qui m'honore beaucoup, mais le cardinal Torrent, celui de Saint-Apollinaire, là, ils ont vraiment les grandes églises du centre de Rome, hein, près de la place Narbonne, le cardinal 23, Saint-Louis des Français, le cardinal Barbarin, la Trinité des Monts. Alors, on en a peu, mais ils ont des beaux titres. J'avais été très amusé de voir que le cardinal de Sydney portait le titre de Santa Maria Addolorata alla Pineta Sacchetti, c'est-à-dire de Sainte-Marie des Douleurs, dans un lieu dit la Pinède de Sacchetti. Alors je disais, c'est vraiment l'enracinement local poussé à un point presque humoristique. Alors, le mystère de cet évêque, qui est un mystère qui est difficile à comprendre, sans ce fonctionnement vigilant, pointilleux, extrêmement organisé, qui amène à des foules d'anecdotes, bien sûr, hein, et j'en ai passé plusieurs sur les conclaves, mais qui démontre bien, effectivement, cette appellation que je ne peux pas vous donner, moi, qui est, et je terminerai là-dessus, vraiment urbi et orbi. Ça, c'est le mystère de l'Église romaine. Je vous remercie.
Conclave d'hier, conclave d'aujourd'hui, l'élection d'un pape. Vous venez de suivre la conférence de Marc Agostino, professeur à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Conférence enregistrée le 12 avril 2013 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne.